Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Alors, il faut savoir que le miroir de l'époque, ce n'était pas le miroir argenté que nous avons aujourd'hui, qui est fabriqué de manière industrielle, où on se voit bien dedans, comme si on se voyait soi-même. C'était un miroir en bronze, qui était bosselé, et qui donnait une image de vous-même, si vous regardiez dedans, approximative. Approximative. D'ailleurs, s'il était un petit peu déformé, vous voyez déformé. Bon, voilà, c'était pas l'image parfaite de vous-même. Donc, c'est ce miroir dont il est question ici, de l'époque de Paul. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse. Vous voyez, ce que je vous disais, c'est plutôt confus. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Alors je me suis posé la question du lien entre les versets précédents que je viens de lire sur cette connaissance partielle et sur ces trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et je vais insister ce matin un peu sur la foi. Ces passages qui parlent des choses qu'on voit partiellement peuvent s'appliquer de plusieurs manières. Vous savez, la Bible s'applique à différents niveaux. Elle peut s'appliquer déjà dans notre vie chrétienne aujourd'hui, où on commence par connaissant le Seigneur voilà, comme un enfant, on le rencontre, voilà, et on est un petit enfant, comme le dit l'apôtre Paul dans un autre texte. Et petit à petit, on grandit. Quand on se nourrit de la parole, quand on se nourrit de la relation avec lui, et petit à petit, il peut nous donner responsabilité, parce que les responsabilités élèvent notre niveau d'autorité aussi, et du niveau d'autorité, on se confronte à d'autres autorités. Hein, on n'est pas dans un monde de bisounours. Donc voilà, le Seigneur nous donne en fonction de nos capacités aussi de responsabilité. Et ce qui fait qu'à un moment donné, quand on devient un homme, une femme de Dieu, voilà, on est capable d'encaisser plus de choses que autres. Hein. Vous savez tous que on n'a pas, on n'aime pas naturellement les hommes politiques, mais les hommes politiques, s'ils encaissent pas, ils peuvent pas rester. Hein. Ils reçoivent énormément de coups. Voilà. Je peux dire pour autant que ils agissent bien, ils répondent pas forcément bien, mais voilà, on reçoit des coups quand on est exposé, disons, à diriger un groupe, en plus une nation. Et dans le spirituel, c'est pareil. Hein. Dans le monde spirituel, quand le Seigneur donne des responsabilités, on commence à taquiner le royaume des ténèbres, et bien sûr il y en a un qui réagit. Donc il faut grandir dans la foi. Donc ça s'applique à ça, mais aussi ça s'applique dans l'éternité. Hein. Et là l'apôtre évoque cela par rapport à la foi, l'espérance et l'amour. Et je vais essayer d'éclairer ce point-là avec vous, qu'aujourd'hui nous voyons de manière confuse, mais quand nous serons avec le Seigneur, nous verrons de manière clair. Amen. Cet après-midi, j'évoquerai un passage d'Ésaïe 40. Ésaïe 40, où l'apôtre, le prophète, s'écrit « Soyez encouragés, parce que le Seigneur a prévu que le temps d'épreuve s'arrête. Et pour nous, le temps d'épreuve qu'on a connu depuis 2 ans s'arrête. Et donc, le courage que le Seigneur nous donne, c'est pour retrouver une nouvelle vision, plus clair de ce qui nous attend. Et parfois, on vit aussi des choses comme ça. Et juge, dont a parlé Michel, juge 3, Michel va faire cette analyse du texte qui va faire apparaître, pour ceux qui peuvent se préparer, vous allez voir, ça va faire apparaître un petit peu ce qu'on a vécu ces deux dernières années où nous avons été éprouvés, comme dans juge 3. Alors Dieu veut nous amener dans la foi, dans l'espérance et l'amour. On est en face d'une trilogie à nouveau, hein, de foi, espérance, amour, ce qui n'est pas étonnant puisque notre Dieu est trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Mais ces attributs, foi, espérance, amour, nous mettent en contact avec la relation avec Dieu. C'est-à-dire Dieu nous donne des grâces particulières, dans l'Église on appelle ça des vertus théologales, c'est-à-dire qui sont des vertus de Dieu, hein, qui nous donnent pour pouvoir vivre la vie chrétienne. La foi, l'espérance, l'amour. Si on n'a pas ça, mais ça nous est donné en tant que chrétien, donc on le reçoit. Maintenant, il faut savoir les utiliser, voyez. Mais on les reçoit pour vivre la vie chrétienne. Si on n'avait pas ces trois vertus, vertu ça veut dire valeur, hein, vertu ça vient de viril, hein, quelqu'un de viril, quelqu'un qui met en œuvre les choses, hein. Donc il faut mettre en œuvre la foi, l'espérance et l'amour. Quand on les met en œuvre, eh bien, on peut marcher dans la victoire avec le Seigneur. C'est pour ça que je vous souhaite cette année de grandir dans la foi, dans l'espérance et l'amour. Amen. Vous le recevez? Et vous verrez que vous verrez de grandes choses, beaucoup plus que l'année passée, parce que vous allez grandir dans ces trois vertus qui viennent du Seigneur. Alors d'abord la foi. La foi, elle est assez malmenée. Hein, comme Olivier disait, il faut revoir un peu les terminologies, hein, de la crainte, mais ici c'est la foi. Alors la foi, souvent, c'est associé à une démarche affective ou irrationnelle. C'est-à-dire, voilà, c'est pas lié à la raison, c'est irrationnel. Hein. Et qui a plutôt trait au sentiment de la présence de Dieu dans nos vies. Quels sont ceux qui ressentent ça, que la foi c'est plutôt un sentiment? Non, personne? Ah, mais c'est super là. Pensais que c'était assez régulièrement reconnu. En tout cas, c'est ça qui souvent est reconnu comme étant du domaine de la foi. Hein, plutôt un sentiment de la présence de Dieu dans nos vies. C'est quelque chose qui existe. Hein, je vais en parler tout à l'heure. Hein, il ne faut pas l'évacuer. Mais ce n'est pas prioritaire. Si la foi n'était qu'un sentiment, comme le fait de tomber amoureux, hein, alors elle risquerait d'être une réalité qui passe. Hein. Parce que, vous savez, quand on est amoureux, bon, bah, ça dure un temps. Et après, il faut transformer en amour. Hein. Le sentiment amoureux devient l'amour quand on se marie. C'est pour ça que le mariage sépare un petit peu, hein, le sentiment amoureux et ensuite l'amour, qui est un don de soi. Parce que comme on découvre l'autre, au départ, on le voilà, on l'imagine de manière un peu, voilà, comme, voilà, les femmes sont habituées au roman, voilà, du chevalier qui vient, qui l'emmène, et qui, hein, qui lui donne le baiser, etc. Voilà, bon, voilà. Mais après, on découvre, voilà, qu'il y a d'autres réalités, hein. Faut pas dire qu'il faut enlever ça. Mais bon, ça dure pas toute la vie. Ceux qui sont mariés, vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Eh ben, ben, c'est normal, parce que c'est la réalité. Donc on comprend que certains puissent perdre la foi. Si les gens pensent que c'est un sentiment amoureux, ben, voilà, c'est comme dans le sentiment amoureux, sauf qu'il y a l'amour derrière. Donc il faut passer à l'amour. Du sentiment amoureux, il faut passer à l'amour. Donc de la foi sentimentale, il faut passer à la foi rationnel. Et ça, c'est un peu difficile, et je vais essayer de vous l'expliquer. La dimension en hébreu, la foi se dit émouna. Émouna vient du mot aman, qui signifie certitude, qui signifie vérité. Donc, pour la foi pour la Bible, c'est la certitude de la vérité. Et vous, c'est pas du tout lié à un sentiment religieux. ou un sentiment amoureux, ou un sentiment tout court. C'est la certitude de la vérité. Donc vous voyez, on est déjà plutôt dans le rationnel. Parce que la raison, elle travaille sur des certitudes. Si aujourd'hui vous avez des iPhones et tout ce que vous avez, c'est parce que la science a découvert comment fonctionnent les atomes, et tout des, voilà, tout maintenant on fait des ordinateurs atomiques, mais voilà, c'est la découverte des atomes qu'on a pu faire les transistors, qu'on a pu faire tout ça, etc. Donc c'est à partir de la science rationnelle de découverte de ce que Dieu a fait, et qu'on peut transformer les choses pour qu'elles puissent être un outil, des outils à notre disposition. Bien, la foi est de l'ordre rationnel, plutôt qu'irrationnel. Elle a plus à voir avec l'intellect qu'avec l'affectif. C'est en particulier ce même mot qui est utilisé dans le petit mot « Amen ». Vous dites « Amen » ? Eh bien, « Amen » veut dire... Pardon ? Veut dire « c'est vrai ». C'est vrai. Quand vous dites « Amen », vous dites « c'est vrai ». Voilà. Vous voyez, dans le monde, on dit quoi ? On applaudit. Pour être d'accord, quand un discours, voilà, vous applaudissez, et puis il y a même les applaudissements, comment on appelle ça, les standing ovations, voilà, parce que la salle est d'accord avec le spectacle, avec ce qui se passe, etc. Voilà. Donc il y a une réponse, vous voyez. Eh bien, amen dans l'Église veut dire la même chose, c'est vrai. Hein. Sauf que bon, c'est plus digne, parce qu'on n'applaudit pas celui qui le dit, on applaudit la parole. Qui est annoncé, hein, c'est la parole de Dieu qui est vraie. C'est vrai. Dans l'Évangile, on le rencontre très souvent. Et en araméen, dans le texte grec, quand Jésus dit « Ainsi, nous l'avons dans nos traductions, en vérité, je vous le dis. » C'est la même chose. En vérité, je vous le dis. C'est dans Jean 6, 47. Dans le texte original, nous avons simplement « Amen, amen, je vous le dis. » C'est la même chose. Jésus aurait pu dire « Amen, Amen, je vous le dis ». Souvent, on traduit le mot « Amen » dans les prières « Ainsi soit-il ». Ce n'est pas vraiment exact, sauf que si l'on dit « Amen » à la fin d'une prière, que celle-ci est une demande, on comprend que ce soit plutôt un vœu qu'une constatation. Hein, « Ainsi soit-il ». Thomas d'Aquin, le grand théologien n'a pas dit que des bonnes choses, mais quand même, il a écrit une somme théologique où il connaissait que bien l'Écriture et disait que la foi, ça, c'est l'adhésion de l'intelligence à la vérité. Et il était dans la droite ligne biblique, tradition biblique. Ce n'est que durant d'autres courants, vous savez, il y a des courants, pour ceux qui ont fait de l'histoire... de l'Église. Il y a eu au début les premiers pères, les pères primitifs qu'on appelle, ensuite après les pères de l'Église, ensuite après, etc. Ensuite Thomas d'Aquin voilà, a établi un peu la somme théologique, mais il y a eu en parallèle des courants mystiques. C'est quoi les courants mystiques ? Eh bien, c'est des personnes comme vous et moi, d'ailleurs on est des mystiques aussi, les évangéliques, qui mettons l'accent sur la relation à Dieu. Voilà. Donc la relation à Dieu, c'est l'ordre mystique, puisque c'est subjectif. Ruben a une relation à Dieu, moi j'ai une relation à Dieu, Edouard, voilà. Donc on a une relation à la parole, qui est rationnelle, et une relation directe avec le Seigneur, parce que c'est de personne à personne. Okay. Donc le mot mystique, ce n'est pas en soi négatif, sauf que... Il a pris des connotations négatives, comme d'ailleurs la notion de rationalité aussi, hein, dans l'évangile libéral, dans la théologie libérale. Mais donc, le problème, c'est que l'influence du mysticisme, donc on a tous ceux qui sont mystiques, je ne les cite pas, il y en a beaucoup, eh bien, dans ce courant mystique, la notion de foi s'est trouvée teintée de sentimentalisme. Sentimentalisme, d'irrationalité... pour en arriver à une formule peut-être intéressante, mais qui est l'antipode de la pensée biblique, qui dit, alors c'est en latin, credo quidam absurdum, ça veut dire je crois que c'est absurde. Vous avez entendu ça ? Voilà. C'est-à-dire la foi, c'est croire ce qui est absurde. Ça existait, surtout en France, hein, où il y avait des rois très chrétiens, C'est la fille aînée de l'Église, c'est la France. Et voilà, il fallait, il y avait cette notion dans le catholicisme que la foi, voilà, c'est se jeter dans le vide. Voilà. Non, vous avez jamais entendu ça? Bah, parlez un peu les gens dans la rue. Ils vont vous apprendre ça. C'est pour ça que les Français veulent plus rien savoir de l'Évangile, entre autres. Ce qu'ils disent, c'est absurde. C'est absurde. Regardez l'Église, regardez maintenant les scandales qui arrivent. Bon, tout ça, c'était caché. Mais ça existait. Hein? Donc tout ça, ça amène de l'absurde. Ah oui, mais la foi. Bah, la foi, c'est de croire ce qui est absurde. Et voilà, c'est comme ça que l'ennemi, au travers des chrétiens, eh bien, détruit la foi. Voilà, donc ces courants mystiques ont amené cette croyance que, ah non, il faut se séparer de la foi absurde, mais aussi la foi rationnelle, parce que c'est pas rationnel, la raison, voilà, elle était élevée en 1789, la révolutionnaire, etc. Voilà. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Et la parole de Dieu, là, et la Bible. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à la Bible. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Qu'est-ce que l'Église primitive enseignait? Parce qu'elle n'était pas encore dans ces mouvements de rationalisme ou de sentimentalisme. Donc la foi, les auteurs bibliques disent que c'est l'acte, la foi, l'acte, par lequel on adhère à un message de vérité. D'ailleurs, vous connaissez bien ce passage de Jésus avec Pilate. Avant sa mort, dans le tribunal qu'on lui a dressé pour le crucifier, Jésus a dit, c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Pardon, c'est Pilate. Ouais. La vérité a toujours été un gros sujet de philosophie. Hein. Le philosophe s'empare de ce sujet capital de la vérité. Ben pour nous, c'est qui la vérité? C'est Jésus. C'est une personne. Ben, c'est une personne rationnelle. Il a vécu sur terre. Il vit aujourd'hui. Il est ressuscité. Et vous, c'est du rationnel, ça. C'est pas du sentiment. On peut avoir un sentiment pour Jésus, mais la rationalité, c'est qu'il a existé, qu'il existe encore. Sauf qu'aujourd'hui, il est ressuscité, il existe dans le monde spirituel. Mais il peut se manifester dans le monde matériel, puisque par son esprit, il habite en nous. Donc on est dans le rationnel. Rationnel veut dire des choses qui existent, qu'on peut toucher, qu'on peut aborder, et qui ne s'en vont pas. Vous voyez, c'est les fantômes, ils s'en vont. Tchou ! Pas de fantômes. Est-ce que Jésus, c'est un fantôme ? Ben oui, mais c'est ce que un peu les apôtres croyaient hein, quand ils ont vu la résurrection. On dit, ah ben non, c'est pas possible, c'est un fantôme. Ben Jésus, pour leur montrer que c'était pas un fantôme, il a mangé, il est allé sur la plage et puis il a mangé avec eux comme voilà pour montrer que il avait un vrai corps, hein, que c'était pas un fantôme. Voyez-vous la foi, c'est pas du fantôme. Ça touche à la rationalité, à la réalité. La foi n'a pas besoin d'être cantonnée dans l'irrationnel ou l'affectif. Elle peut, au contraire, être vue comme une démarche extrêmement rationnelle. Alors, qu'est-ce qui la distingue de la théorie scientifique? C'est quoi la théorie scientifique? La théorie scientifique, bah, depuis quelques siècles, on a découvert... la gravité, comment fonctionnent les choses, si je fais tomber ça, voilà, je vais les casser, hein, parce qu'il y a la gravité, etc. Donc tous les mécanismes ont été découverts par la raison, en cherchant à comprendre ce qui nous entoure, ce qui est autour de nous. Mais le problème de la démarche scientifique, c'est de partir d'une hypothèse. L'hypothèse de dire, c'est peut-être ça, mais j'en suis pas sûr. Donc on pose une hypothèse, et après, ça devient une thèse, à partir du moment où on l'a vérifiée. Donc il faut passer par la vérification, la comparaison, etc. Puis il y a des règles scientifiques, il faut au moins faire 70 fois le même test, sans changer d'autres paramètres, pour pouvoir déclarer une loi. C'est quoi la foi par rapport à la démarche scientifique? Je vois que Philippe qui réfléchit là. Je vois que ça fume là. Ma Bah, c'est que c'est pas une hypothèse, c'est que c'est une révélation. Vous voyez la différence? C'est une démarche rationnelle, la foi, sauf que au lieu d'être une hypothèse au départ qu'on vérifie, c'est une révélation. Et c'est pour ça, quand Jésus a dit à ses disciples, mais qui dites-vous que je suis? Et Pierre a dit,
tu es Christ, le Fils de Dieu.
Et Jésus a dit, c'est pas toi, c'est mon Père qui te l'a révélé. Voyez-vous la différence entre une démarche scientifique et une démarche biblique de la foi? C'est toujours dans le rationnel, parce que Pierre, il a dit des choses vraies. Il a dit, tu es le Christ,
Fils de Dieu.
Est-ce que le Fils de Dieu, ça existe? Je suis étonné de vos... Vous pensez que je vous piège? Non, bien sûr, Fils de Dieu, ça existe, sauf qu'on ne le voit pas. Alors? Il est invisible, le Fils de Dieu, sauf que de temps en temps, il se manifeste. Quand Jésus a été baptisé, le ciel s'est ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'apôtre Paul s'est converti, hein, il est tombé du cheval, les gens autour, ils n'ont pas vu ce que lui a vu, mais par contre, ils en ont vu les effets. Hein. Ils sont tombés par terre, la puissance de Dieu. Il y a toujours des effets, mais parfois, on peut voir, sauf qu'on ne peut pas voir face à face aujourd'hui. Moïse, il a voulu s'approcher du buisson, et tu as dit non. Tu n'es pas digne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu exploses, tu vas exploser en vol si tu t'approches. Voyez, il y a les hommes de Dieu qui ont rencontré la gloire de Dieu, en particulier Mamadou Karambéry, hein, ton pasteur. Voilà. Mais il a dit, il a vécu l'horreur. Parce que quand la gloire de Dieu se manifeste, il y a la chair qui se sépare des os. Vous êtes complètement démantibulés. Et ils ont dû courir avec son copain en dehors de la tente pour dire, Seigneur, arrête, arrête, arrête. Parce que notre corps ne peut pas supporter la gloire de Dieu aujourd'hui. Mais nous pourrons la supporter quand nous avons encore ressuscité. C'est des réalités. Sauf qu'il y a des temps où les choses vont se manifester de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Donc je reviens à ma foi qui est rationnelle. La foi est ainsi essentiellement une visée, un choix éthique. Elle est de l'ordre de la conviction théologique. La théologie, ça veut dire la science de Dieu. Il y a des sciences, toutes sortes de sciences. La théologie est la science de Dieu. Comment ça fonctionne? Comment Dieu agit? Comment Dieu se manifeste? Comment Dieu... Et là, c'est toute la Bible qui est concernée, qui nous révèle qui est Dieu, comment il agit, comment il fonctionne, etc. Donc la foi est essentiellement une conviction théologique concernant le but possible de notre vie, du monde, de l'humanité, voilà, etc. Et notre foi, c'est le système de valeurs qui oriente notre existence ici-bas, qui donne du sens à nos vies. Et cette foi n'a rien de fluctuant, n'a rien de variable, voyez-vous. C'est nous qui varions par rapport à la réalité, mais la foi elle-même nous projette devant une réalité que nous pourrons approcher de plus en plus, mais qui existe, donc elle est rationnelle. Elle ne laisse pas la place au doute. Et il y a un choix à faire par rapport à ces réalités. Cette foi qui est la mienne, c'est moi j'ai la foi, hein, comme vous avez la vôtre, hein, pour laquelle je veux donner ma vie à l'évangile, ne comporte aucun doute. Le doute, c'est quand je suis animé d'une foi sentimentale. Il y a des gens qui disent, j'ai perdu la foi. Il y a quelques années, j'ai rencontré une dame qui était très engagée dans l'église réformée de Mantes, qui d'ailleurs qui était notre correspondante dans les rencontres pastorales. Voilà. Et un jour, je l'ai rencontrée à Carrefour. Et je dis, alors, ça va, tout ça? Il dit, non, j'ai perdu la foi. Ah bon? Vous savez pas qu'on pouvait perdre la foi? Bon, j'ai découvert quelque chose, voilà, il a perdu la foi. Voilà. Quand vous perdez vos clés, on peut perdre la foi. Vous voyez, quand j'ai parlé d'une foi sentimentale, c'est de ça que je voulais parler aussi. La foi biblique ne peut pas se perdre. Elle ne peut pas se perdre. Parce que c'est une foi rationnelle. Si Jésus a existé il y a 2000 ans, s'il est mort et ressuscité, et que c'est une réalité, vous ne pouvez pas perdre cette réalité qui a existé. C'est un peu comme si je disais, voilà, demain on va enlever de vos cahiers d'histoire que Napoléon existait. Peut-être vous faire plaisir si vous n'aimez pas Napoléon, mais vous voyez, c'est une aberration, voilà, parce que ça vous fait plaisir. Donc ça reste du sentiment. Pareil avec la foi. La foi renvoie à des réalités, certes invisibles, mais réelles. Je crois dans l'amour, et à aucun moment je ne doute en pensant que finalement j'aurais pu me retrouver quand je ferais mieux de prêcher la haine. Vous voyez, si par exemple, tout à l'heure on a parlé de l'amour, je ne veux pas prêcher sur l'amour, mais ces trois choses demeurent, l'amour. Si je commence à douter que l'amour est la vérité de base, c'est-à-dire la vertu de base du royaume de Dieu, je vais commencer à douter, je vais dire, oui, je peux aussi croire à la vengeance, à la haine, à la violence, vous voyez. Voilà, est-ce que le pardon est important? Oui, mais c'est difficile, le pardon, quoi. Hein. Voilà, et je commence à douter, vous voyez. Alors que la foi nous renvoie à des choses qui ne changent pas. L'amour ne change pas. L'amour est éternel, parce que Dieu est amour. Donc ça veut dire que si vous vous doutez de demander pardon à quelqu'un, votre pire ennemi, bien, c'est votre problème, mais ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu, il nous a aimés avant même que nous l'aimions, alors que nous étions pécheurs. Vous voyez, l'amour, c'est un choix, c'est une décision. Et ça nous fait entrer dans les réalités de Dieu et dans ce qu'on peut voir dans le royaume de Dieu. Ma foi est une conviction inébranlable que l'évangile est le seul programme possible pour moi et pour l'humanité. Et que nous pouvons vivre en paix et dans le bonheur dans ce cas-là. C'est pour ça que les chrétiens persécutés, vous savez, ils sont éprouvés dans leur foi, plus que nous. Nous avons une chance, mais qui en fait, c'est une balle dans le pied qu'on se tire, parce qu'on n'a pas de problème au niveau de la foi, au niveau, en tout cas, de notre foi, on a trouvé cette liberté. Du coup, on transforme une foi dans un sentiment qu'on peut suivre, qu'on ne peut pas suivre, etc. C'est pas ça, la foi biblique. La foi biblique, c'est une conviction que Dieu est amour et que je dois aimer. Ce n'est pas un sentiment amoureux, l'amour. C'est que je dois aimer, non pas par l'égalisme, mais parce que c'est une valeur éternelle que Dieu manifeste à mon égard, que moi je manifeste à mon égard. Donc je n'ai plus de choix entre l'amour et la haine. Et la philosophie actuelle du Nouvel Âge, c'est de mélanger les deux. Voilà, comme ça c'est facile. On mélange le bien et le mal. Voilà. Vous voyez, c'est le serpent. Les deux serpents qui se mordent la queue et qui sont le symbole du mercure. Et c'est ce qui est enseigné dans l'alchimie, etc. Voilà, c'est la grande sagesse humaine. Hein. Mais Dieu est amour, il n'est pas haine. Il n'y a pas de haine en lui. Et si nous commençons à mélanger les deux, bien nous ne sommes pas dans l'évangile du royaume, nous sommes dans un autre évangile. Prospérité, tout ce que vous voulez. La foi n'est pas fluctuante, c'est une conviction inébranlable. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux nous dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses. Qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez que le monde dans lequel nous allons vivre, il y a de la haine? Il y en a assez comme ça. Qu'il y ait de la guerre? Il y a assez comme ça. Qu'il y ait de l'injustice? Il y en a assez comme ça. Et non! Vous espérez, comme tous les hommes espèrent, hein, être dans le bonheur, dans la joie, etc. Et c'est normal, c'est comme ça que Dieu nous a prévu. Sauf qu'aujourd'hui, il faut faire face à tout ce qui se passe autour de nous et en nous-mêmes, hein, où il y a ce mélange. Mais la foi et la ferme, ils disent même dans Hébreux 11 que la foi est la substance des choses qu'on espère. La conviction des choses qu'on ne voit pas. Mais cette foi étant par définition le fondement même de nos convictions, il est évident qu'elle ne peut que devenir une démarche dans laquelle nous sommes totalement impliqués. La foi nécessite une position radicale. Pour ça, on ne peut pas être chrétien à moitié. On ne peut pas être chrétien en marchant un pied dans, sur la route et un pied sur le trottoir. Voyez ce qu'on dit habituellement. Parce qu'en fait, obligatoirement, on a des problèmes de foi. Et c'est pas uniquement à cause des fêtes, mais il faut marcher droit sur la parole. Amen. Si la parole n'est pas notre guide, la parole rationnelle, qui ne change pas. C'est pour ça qu'il y a différentes théologies, et bon, certains pensent que je fais une marotte de George Eldon Ladd. C'est pas que je fais une marotte, c'est que pour l'instant, je connais que lui qui est sur la doctrine évangélique. Alors, si vous êtes sur d'autres doctrines, c'est votre problème. Il y a beaucoup de doctrines, hein. Doctrine libérale, doctrine sectaire et tout ça. La doctrine évangélique, elle a été définie par la déclaration de Chicago. D'ailleurs, c'est M. Guibal qui me l'a fait connaître la première fois. Où les théologiens évangéliques du monde entier sont réunis pendant 10 ans. 10 ans. Pas 10 mois, 10 ans. Et ils ont vu que les chrétiens évangéliques commençaient à dériver. Alors ça, c'était les années 78-86, hein, c'est pas Mathusalem. Hein. Voilà. Et ils se sont réunis, ils ont dit, il faut quand même que le monde évangélique, les chrétiens évangéliques, aient quelque chose de sûr dans ce monde qui est fluctuant, où tout est relatif, où tout est fluctuant. Et dans les déclarations de Chicago, ils ont sorti quelque chose, bien sûr, qui est l'horreur pour les autres théologiens, c'est dire que la Bible est sans erreur. Est-ce qu'il y en a qui croient qu'ici que la Bible est sans erreur? Ah, mais c'est un challenge. Je vous défie, je vous donne des versets, et vous allez me dire si vous croyez que la Bible est sans erreur. C'est loin d'être évident. Ils ont 10 ans. Et encore, ils n'ont pas tout réglé. Il y en a un que je connais très bien, c'est M. Blocher, hein, qui est le français qui est connu à l'étranger, c'est le seul, qui a cette capacité de démontrer la cohérence biblique, même s'il y a des difficultés à mettre les choses en face. C'est le défi évangélique. Les autres théologiens, ils ne s'embarrassent pas de tout ça. Ils prennent une thèse, comme dans le démarche scientifique, et puis cette thèse, c'est une hypothèse, ils cherchent à la vérifier. Donc voilà, vous prenez les passages qui arrangent, puis les autres, vous les laissez de côté. Alors les chrétiens évangéliques, enfin les théologiens évangéliques, ils disent, mais attention, là, il y a d'autres versets là. Comment vous faites pour que ça aussi ce soit vrai? C'est ça, et c'est ça que Ladd a fait, c'est tout. Il a fait une étude biblique, cohérente, systématique. Plus systématique, voilà, il peut encore faire mieux, hein, mais ceux qui se lèvent, ils sont les bienvenus dans ce job. Mais en tout cas, il existe, et c'est ce qu'on a fait depuis 9 mois dans l'Église, pour laisser la parole être une parole qui est sans erreur. Et on se place devant cette parole en disant, Seigneur, si tu existes, si tu es Dieu, si tu as révéler ça à des hommes, si on croit que c'est la parole révélée, j'y crois jusqu'au bout. Sinon, hein, je m'en vais dans une autre croyance qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus libérale, il me laisse beaucoup plus de liberté. Mais moi, personnellement, je crois que la Bible est sans erreur. Mais c'est très difficile. Très difficile. Parce qu'il faut un peu de raison, là. Il faut faire marcher la raison. La raison au service de la foi, au service des Écritures. Amen. Et c'est une démarche rationnelle. Donc j'encourage tous ceux qui ont une raison de l'utiliser et pas de la mettre au placard. Parce que vous la mettez au service de la foi. La dimension affective, elle existe aussi. Attention, je ne veux pas non plus l'écarter complètement, parce que le Seigneur parle aussi à chacun de nous. Il nous parle. Il est vivant, et nous sommes vivants aussi. Et certains ont, depuis leur enfance, le sentiment de la présence de Dieu. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui, depuis votre enfance, même sans connaître la foi, vous sentez que Dieu est là, que voilà. Oui, beaucoup, moi aussi. Voilà, c'est une réalité. Parce que on est issu de Dieu. Voilà, et quand on n'est pas comme dans un pays communiste, hein, où ils ont tout éradiqué, lavage de cerveau, etc., c'est pas vrai. Bon, mais quand on est naturellement, on sait bien, et les enfants savent que Dieu existe. Donc vous voyez, ce sentiment, ça c'est un sentiment, hein, c'est pas la parole, c'est un sentiment, ça c'est affectif. Et il faut pas le négliger, parce que ça fait partie de la foi. On peut croire, hein. Et ce sentiment de la présence de Dieu peut conduire à une foi instinctive, dite de la foi du charbonnier. Vous avez déjà entendu parler de ça? La foi du charbonnier, hein? Charbonnier. Charbonnier, il n'est pas instruit, il n'a pas fait bac plus 5 ou plus 15. Il est simplement, il fait le charbon, quoi. Mais voilà, c'est pas indigne, vos métiers. Mais il peut croire en Dieu. Vous croyez que tout le monde peut croire en Dieu? Il n'a pas besoin de faire d'études. Je vous ai parlé de la raison, mais sans raison, vous pourriez aussi croire. Sauf que c'est complémentaire. Vous voyez, c'est complémentaire. D'ailleurs, quand il y a eu la... Ça me vient à l'esprit, quand il y a eu les Huguenots dans ton pays, et que Louis XIV a voulu éradiquer les protestants, qu'est-ce qu'il a fait? Le premier décret qu'il a promulgué. Pardon ? Oui, mais concrètement, par quoi il a commencé ? C'est important, vous allez comprendre pourquoi, dans le cadre de mon message. Rémi, toi, tu as fait de l'histoire, non ? Non ? Ah oui, toi. Sarah. Pardon ? Non, ils ne sont pas embarrassés de tout ça. Pour lui, il a dit, une fois une religion, c'est catholique, c'est terminé. Tout ce qui est catholique, tout ce qui... Voilà, c'est moi. Il voulait qu'une foi, parce qu'il croyait que le royaume allait être en paix quand il n'y avait qu'une seule foi. Bon, il n'y a pas que lui hein, qui pensait comme ça. C'est une foi, une loi, un roi. Voilà. Non, mais il a commencé par mettre dehors tous les pasteurs du royaume. Eh oui. Si on connaît un peu l'histoire des Huguenots, c'est comme ça que des pasteurs sont retrouvés en Hollande, des pasteurs sont retrouvés à Londres, des pasteurs sont retrouvés en Allemagne, des pasteurs sont retrouvés à Genève, etc., etc. Voilà, c'est ça l'histoire. Donc tous les pasteurs ont été déportés. Ce qui fait que les communautés n'avaient plus de pasteurs. Voilà, tous les pasteurs sont partis. Oh, foi du charbonnier. Ouais, c'est pas évident. Et ils ont souffert, parce qu'ils n'avaient plus d'enseignement. Bon, ils ont eu des exhortations, ils se retrouvaient dans le désert, etc. Il y en a qui quand même se sont levés pour enseigner, etc. Vous voyez. Mais vous voyez, on a enlevé la foi rationnelle. Et c'est devenu une foi irrationnelle qui n'a pas très bien tourné. Mais ça, c'est une autre histoire que je n'aborderai pas aujourd'hui. La foi du charbonnier, c'est cette foi instinctive. De sentir que Dieu existe. C'est une foi naturelle, je dirais, hein, qu'on considère comme un trésor précieux, certes, mais qui est vulnérable, parce que, voilà, si ma foi, d'un seul coup, elle se heurte à un gros problème, très souvent un décès énorme, etc., voilà, à quoi je vais me raccrocher, voyez. Et très souvent, c'est comme ça qu'on perd la foi, enfin, qu'il y a des gens qui perdent la foi, parce qu'ils ne sont pas ancrés dans une foi rationnelle. Vous voyez la différence? Il faut les deux. Jésus connaissait la parole. À 12 ans, il confrontait les docteurs de la loi. À 12 ans. Parce que, et les juifs, vous savez, ils étudient la parole. Hein. C'est autre chose que nous. Hein. Parce que Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Parce qu'il a voulu que la parole puisse venir jusqu'à nous sans erreur. Et qu'on puisse y croire. Il semble bien en effet que cette dimension affective de la foi que je vais évoquer est une grosse composante. Hein. Mais parfois on pense que c'est la première, non. C'est la deuxième. Elle vient après la foi objective, de la parole. La foi du charbonnier, elle paraît enviable, mais elle est dangereuse. Elle est dangereuse. En effet, celui qui a la foi affective risque de croire qu'il pourrait s'en contenter. Oh, je n'ai pas besoin de lire la parole, je connais Dieu, voilà, et puis j'interprète la parole en fonction de... Voilà, et hop, c'est parti. Et on fait des sectes, on fait tout un tas de choses, vous voyez. Il y a... On peut être très sincère dans l'erreur. On peut être très sincère dans l'erreur. Voilà. Et l'ennemi s'y emploie pour nous amener dans l'erreur. Hein. Il fait tout pour nous dire « Ah oui, mais ce verset, il va avec celui-là. » J'ai souvent confronté à des chrétiens qui me disent ça. Je dis « Oui, mais l'autre verset, tu l'as pas vu ?» Et l'autre verset, tu l'as pas vu ?» L'autre verset, c'est un peu plus compliqué que ça, hein, de prendre deux versets, de les mettre en juxtaposition. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh oui. Pardon ? Oui, mais c'est pas forcément méchant. Il dit qu'ils prennent ce qui leur plaît. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas compris que la foi est rationnelle. Et qu'elle s'appuie sur ce que Dieu dit, mais il faut le chercher. Il faut le chercher dans sa parole. Il faut étudier sa parole. Il faut la manger, la parole. Amen. Et c'est ce que nous avons fait pendant 9 mois. Et je suis très fier de cette église. Pour ceux qui ont suivi, et n'en faites pas, il y aura des rattrapages. Ceux qui veulent... Vous savez, moi je suis persévérant. J'ai beaucoup de défauts, mais j'ai une qualité, la persévérance. Et je vous laisse la possibilité de vous rattraper. D'ailleurs, samedi prochain à 18h30, je fais un rattrapage pour ceux qui n'ont pas pu venir, hein, qui sont les bienvenus, pour rattraper le dernier cours. Mais on reprendra une autre série, parce que la parole de Dieu... objective, cohérente, qui montre l'unité de Dieu, si elle n'est pas là, on ne tiendra pas dans ce monde. Notre foi ne tiendra pas. Notre foi sera mélangée. Elle sera mélangée avec toutes sortes d'autres choses, et puis on ne tiendra pas, c'est tout. Hein? Vous voyez, ouvrez la télé, ce que vous faites, ou l'Internet, regardez les nouvelles. Ça vous affole, les nouvelles. Bah, si vous connaissez la parole, moi je suis pas affolé. Je sais que voilà, ma foi c'est tendue. Je sais que c'est lui qui tient l'histoire dans sa main. C'est lui qui tient les choses dans sa main. J'ai pas besoin d'être affolé. Je prie. Seigneur, bénis un tel, bénis tel président, bénis telle chose, etc. Mais voilà, je peux pas sauver cette situation telle autre, oui. Je te le fais pas dire. Mais voyez, quand on a la foi, on sait où on va. Alors, c'est l'autre point que je ne vais pas aborder aujourd'hui, c'est l'espérance. L'espérance est aussi une réalité objective. La foi, c'est de croire des choses invisibles qui sont plus réelles que le visible et qui commandent le visible. Parce que c'est l'invisible qui commande le visible, c'est pas l'inverse. La parole de Dieu dit qu'au départ, il n'y avait rien, sauf Dieu. Il a créé le monde et tout ce qui va. C'est l'invisible qui commande le visible. Dis-le à ton voisin. Dis-le à ton voisin. C'est l'invisible qui commande le visible. Donc si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas marcher en tant que chrétien, ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas dans la foi. Vous voyez ? C'est l'invisible qui commande le visible. Alors, est-ce qu'il faut voir l'invisible ? Cet après-midi, je vais le montrer, l'invisible. Parce que Dieu me l'a montré. Je vais vous montrer l'invisible. Oui, mais vous verrez que moi, j'ai un modèle qui illustre ça. Ça, c'est la révélation que Dieu m'a donnée et que je vous partagerai. C'est l'invisible qui commande le visible. Et quand on n'est pas dans cette foi-là, eh bien, je peux vous dire que la parole de Dieu, elle dit, est-ce qu'il y aura encore de la foi sur la terre ? pourquoi Jésus a dit ça? Et comme Jérôme vient de le dire, on est dans des temps où les chrétiens perdent la foi, parce qu'ils ne sont pas dans la vraie foi. Si on est dans la vraie foi, celle que je viens de décrire, on ne peut pas la perdre. On ne peut pas la perdre. Au contraire, plus on étudie la parole, plus notre foi est renforcée, plus notre foi devient du muscle, on se muscle. Hein. Vous savez très bien que quand on fait de la culture physique, on se muscle. Hein. Spirituellement, il faut se muscler dans la foi. Et la foi, c'est ça. Amen. Mais avec une bonne théologie, hein. Bonne doctrine. Doctrine évangélique. Je ne fais pas de pub à Georges Ladd. Hein. De toute façon, il est déjà mort et pas de problème. Mais bon, montrez-en moi un autre, comme ça, je pourrais lire. J'aime beaucoup lire. Hein. Voilà, je termine là pour dire que la foi est basée sur la raison. La raison des choses, qui sont au-delà du visible. Donc la science, c'est très bien. Voilà, tout ce qui est scientifique, c'est très bien, parce que ça découvre ce que Dieu a fait. Mais la foi, c'est aussi une science, la science de Dieu, qui vient bien au-delà, qui va bien au-delà, parce qu'elle nous montre les réalités invisibles, qui sont au-dessus du visible. Et c'est ce que je vous montrerai cet après-midi, comment ça fonctionne. 14h30. Voilà, je termine là pour vous encourager à avoir la foi cette année, hein, la foi qui se nourrit de la parole, la foi qui s'enracine dans la parole, la foi, si vous cherchez à continuer à creuser votre foi sentimentale, c'est le relation, c'est bien, mais si vous ne faites pas aussi en parallèle la construction de cette foi, Dieu a dit, la parole de Dieu, c'est ça. Jésus, c'est comme ça qu'il a vaincu Satan. Parce que Satan, méfiez-vous, il est très malin. Et il va venir de plus en plus vers la fin des temps pour chacun d'entre nous, va chercher à nous séduire. Il faut lui dire, il est écrit, comme Jésus l'a fait. Il n'y a que là qu'il peut s'en aller, parce que c'est l'autorité de la parole. Amen. Seigneur, te prions que tu fasses de nous des lecteurs de ta parole. Que tu fasses de nous, Seigneur, de ceux qui s'enracinent dans ta parole. Seigneur, que dans cette église, il n'y ait aucun qui puisse mépriser ta parole. Seigneur, parce que c'est ta parole qui se réalisera. Parce que, Seigneur, ce que tu dis, c'est les choses qui vont s'accomplir. Et nous te remercions pour ta parole. Et nous voulons, Seigneur, nous appuyer sur ta parole. Et nous voulons, Seigneur, creuser ta parole pour qu'elle puisse édifier notre foi et que nous puissions marcher, Seigneur, dans la victoire que tu nous donnes. Même si l'ennemi augmente sa puissance, nous savons que ta parole, il ne peut pas la contourner. Et il sera vaincu. Et nous te remercions pour cela. Et que l'espérance, qui est aussi une réalité éternelle, des choses éternelles, eh bien, puisse être accompagnée de l'amour. Que l'amour soit vraiment au cœur de notre motivation, de tout ce que nous faisons, que ce soit par amour, non pas sentimental, mais un amour qui se donne, comme toi tu l'as fait à la croix. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus pour cette nouvelle année. Amen.